Radio là. Radio là.
Quand vous rentrez, je fais de la critique littéraire depuis 25 ans.
Bonjour monsieur. Ça va ? Vous allez bien ?
C'est quoi ta radio ?
Ça s'appelle Radio là. Vous connaissez monsieur ?
Radio là, c'est amusant ça monsieur.
Vous connaissez pas ?
Radio là, non.
Non.
Ici ?
Oui, c'est ça.
Ici ou là ?
Ici et là.
Ah, par-ci, par-là.
Tu fais ta radio ?
Donc, vous avez trouvé la bonne adresse, j'ai l'impression que c'est ici que ça se passe. Là. On est chez Jean-Hugues, c'est ça ?
Ah oui. Oui.
C'est une bonne boutique ? Non, c'est pas...
C'est un étal, monsieur.
Ah, c'est un étal, pardon.
C'est une compétence.
Oui, surtout.
Voilà.
Oui, je vous dis, allez, c'est une compétence particulière.
Oui, par la passion, ça lui ouvre son champ d'investigation et de sélection. Donc, il a un étal plus... comment dire... Où les champs de livres, les champs des spécialités, un peu des livres, sont variés, sont fouillés, approfondis... Donc il n'a pas le CAC 40 du livre, c'est-à-dire les valeurs spéculatives qui finissent au pilon très rapidement d'ailleurs. Voilà, il a un choix de livres en développement durable, on dirait.
Ah bon ?
Oui, ben oui, c'est des livres où il y a moins de pesticides que dans les livres qui sont en palette, qui se vendent en palette actuellement.
Et quand vous parlez de champs larges, que ça lui ouvre des chances, ça...
Mais par sa propre formation universitaire, il a donc une connaissance anthropologique complémentaire, aussi bien en psychanalyse, en ethnologie, sociologie, sémiologie. Mais après, dans les arts, il connaît la photo, le cinéma, la peinture, musique, etc. Voilà, il a une curiosité personnelle qui fait que c'est un bouquiniste à part.
Vous le connaissez depuis combien de temps ? Un moment.
Quelques années.
Ouais,
je ne sais pas évaluer. Pas plus de 5-6 ans, hein, mais...
Mais vous échangez.
Bah, ça suffit pour connaître... pour le connaître.
Et vous échangez sur quel sujet, si c'est pas indiscret ?
Ah non, mais là, on rentre dans de...
On va dans les intimités.
Non, pas de l'intimité, mais je vois pas...
L'intérêt.
Je connais pas votre radio, donc je ne sais pas quel est le public qui va écouter.
Le public, c'est le public de Bordeaux, quoi. C'est le public qui est intéressé par la découverte des gens, de ce qu'ils peuvent dire d'intéressant. Soit,
Parce que bon, je connais la radio La Clé des Andes, la radio...
C'est une bonne radio, La Clé des Andes.
Je ne sais pas, je ne connais pas votre radio, mais c'est pas par...
Il n'y a pas de problème. Hein.
J'ai fait de la radio. Donc,
c'est vrai ?
Oui, j'ai fait de la radio dans les années 86 ou 7. C'était Radio Forum.
Radio Forum, oui. Ouais.
Donc j'ai fait 90 émissions d'une heure sur la littérature.
Ouais.
Quand je faisais lire par des lecteurs, des lectrices amateurs Hosto Blues, j'allais après dans la manif des infirmières faire un complément de sang. Donc c'était un travail. Après, quand il y avait une occupation d'usine, Bordeaux Sud, les poutrelles portuaires, j'essayais de trouver une littérature appropriée. C'est une radio syndicale.
Avec des invités, des discussions.
J'ai fait inviter le directeur de la bibliothèque de Bordeaux sur Montesquieu. Et je lui ai dit, de quoi vivait Montesquieu ? Après, oui, il vendait son pinard aux Anglais. Ah bon ? Il avait la connaissance de tous les livres de Montesquieu, mais il ne savait pas à l'époque. Hein.
Vous lui avez posé une colle ?
Hein ?
Vous lui avez posé une colle ?
Un peu, oui. Ah. Oui, mais depuis, la connaissance de Montesquieu s'est approfondie. Hein. C'était les années 80 et quelques. Alors j'ai fait des émissions avec Hélène Carrère d'Ancos, j'ai fait des émissions avec... J'ai fait sur Fernand Deligny, qui s'occupait des autistes des Cévennes, et qui avait des clients entre guillemets, hein, de Maud Manoni ou de Françoise Dolto, des cas qui étaient très durs et qu'elle n'arrivait pas à traiter, elle les envoyait à Fernand Deligny, qui lui les hébergeait chez les forgerons, chez les paysans du coin. Et donc les autistes arrivaient à faire des gestes inhabituel, pas que la vaisselle ou le plumard, et donc ça les traitait un peu, ça les sortait de la famille un peu pathologique des fois. De leur quand côté, c'était un côté pathologique de la famille, il pouvait y avoir des déterminations génétiques, hein, héréditaires, où il y avait moins d'action dessus. Mais voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Vous avez fait donc pas mal d'émissions.
Sur Goya à Bordeaux.
Genre, vous me parlez de celle-là sur l'autisme. Comment est-ce que vous arrivez à choisir ce sujet-là? Comment ça se passe, en fait?
Parce que moi, j'ai lu l'œuvre de Fernand Deligny avant. Depuis les débuts, les cahiers sur l'immuable, je connaissais son œuvre parce que pour moi, c'est un penseur au niveau de Michel Foucault ou de Lacan, c'est une œuvre vraiment littéraire en plus, hein, c'est un bon écrivain. Il avait fait un gosse qui faisait l'école buissonnière, qui n'arrivait pas à l'école, et que quand il arrivait à l'école, la maîtresse l'appelait Loujagi. Donc il y avait une façon de... Ça plaisait à mes lecteurs et mes lectrices, ces choix de texte, quoi, un peu insolites, mais qui avaient une fonction thérapeutique un peu.
Loujagi, c'est quoi?
Ça devait être en ch'timi. C'était parce qu'il a commencé, Deligny, il a commencé à Armentières pendant la guerre. Donc là, il y a beaucoup de morts, hein, pendant la guerre de faim. C'était un hôpital psychiatrique, Armentières. Après, il a travaillé près de la Borde. Il a travaillé aussi avec Guattari. Guattari est venu près de la région de Fernand Deligny. C'était un copain de Deleuze, hein, Guattari. Et donc c'est l'antipsychiatrie, les courants antipsychiatriques, le livre L'Anti-Oedipe, voilà, c'est cette époque-là.
C'est quoi l'antipsychiatrie, hein?
L'antipsychiatrie, donc Lang et Cooper en Angleterre avaient commencé à vouloir approfondir ce que la psychanalyse de Freud et de... Mélanie Klein ou Winnicott n'avaient pas approfondi. Donc ils ont été dans des courants plus marginaux que ces courants dominants. Enfin dominants entre guillemets, hein, parce qu'il y avait des courants encore plus dominants et plus écrasants venant du behaviorisme ou de l'introspectionnisme anglo-saxon qui étaient beaucoup plus superficiels pour la thérapie réelle.
Winnicott, c'est à travers le jeu, c'est ça, c'est...
Oui, hein, le jeu. Il y a plusieurs écoles. Hein, Mélanie Klein, Envie et gratitude, la haine, l'amour et la haine. Bon, c'est des... Ils ont tous des thématiques qui viennent de leur clinique particulière. Ils complètent donc les concepts de Freud, qui est le pionnier, qui invente les premiers concepts. La pratique fait évoluer la théorie, mais la théorie, elle peut être pratique ou elle ne restait que théorique. Donc une théorie pratique, ça veut dire qu'elle a été plus sur le champ d'expérience. Mais à la fois, il y a une connaissance de la déformation conceptuelle. C'est-à-dire le travail sémiologique propre est une pratique. C'est pour ça qu'il y a une pratique théorique. Et plus on a une pratique théorique, plus la théorie risque d'être pratique. Une théorie pas pratique, ça devient un dogme. Et un dogme, ça gèle le travail de terrain. Mais il y a des dogmes, hein, il y a des lacaniens qui sont dogmatiques, qui vont dire La question du nom du père, c'est fondamental, donc faut ceci, cela. Ben oui, mais dans les familles où le père est polygame, comme Mohamed Merah, qui a 15 enfants, de je ne sais pas combien de femmes, quand la maman se révolte contre ce père qui est le grand dealer de Toulouse, et donc la mère se met à être abandonnique par rapport à Mohamed. Et donc ce gosse, il a subi donc les amants nouveaux dans l'appartement. Enfin, c'est très difficile d'avoir après une constitution tout à fait... alors avec, en plus, il a déjà un penchant à aller voler les voitures chez l'habitant ou après faire des courses-poursuites avec la police du quartier, ça, c'est une spirale. Il y a une dégringolade vers... après, en Algérie, les oncles du père ont des kalachnikovs, ils sont au fils. Voilà, tout ça, c'est pas banal quand même. Tous les gosses des cités ne sont pas dans ce cas de figure.
Comment ça se fait que vous êtes intéressé à ce sujet-là, le Mohamed?
Je me suis intéressé parce que j'ai trouvé ça, non pas chez Jean-Hugues, mais...
Ah, vous allez à la concurrence?
Chez un concurrent, mais il le sait très bien. Il ne me l'interdit pas, parce qu'il sait que c'est pour la bonne cause, c'est pour mon travail d'écrivain.
Donc vous êtes écrivain?
Je suis écrivain, ouais. Et moi, mon terrain, c'est la langue. Donc, comme l'agriculteur... Il met ou non des pesticides, moi j'essaie de ne pas mettre de pesticides dans mon écriture. Alors pour donc ne pas mettre de pesticides, il faut que je travaille plus, évidemment, mon terrain, ma langue.
Vous êtes dans l'agrodynamique ?
De l'écriture, peut-être, oui. Oui, d'une certaine manière, oui. Ben oui, je dois recycler des aliments que j'ai, des aliments intellectuels, pour faire un compost à la pierre rabi, si on veut.
C'est ça, oui. Vous êtes un colibri.
Non, parce que pour moi, l'incendie est tellement grave que la goutte d'eau ne va pas suffire. Donc, si vous voulez... Donc, je suis obligé de travailler avec un réseau, un peu, avec donc des copains psychanalystes ou des copains militants, cégétistes, voilà, pour avoir une chance que le Canadair soit plus efficace si on garde la métaphore de l'incendie. En fait, c'est pas un incendie. Hein, la catastrophe, elle vient qu'on a remplacé la force de travail par le robot, mais qu'on ne savait pas que mettre sur un poste dans le tertiaire tous ces gens qui sont venus vider les campagnes et remplir les bureaux, ne savaient pas qu'on allait mettre 4 à 5 postes sur un seul salaire par le biais des algorithmes. C'est-à-dire qu'à l'écran, les gens ils sortent complètement lessivés parce qu'on leur a mis 4 anciens postes de travail qui ont été numérisés sous forme algorithmique. Et voilà, ils n'ont qu'un salaire pour aller s'éclater contre cette charge de travail supplémentaire, invisible. Donc ça, c'est de la souffrance au travail qui peut amener à des burn-out énormes.
Des suicides.
Voilà. Donc il y a ça.
C'est votre sujet d'écriture?
Entre autres, oui, puisque le fait de remplacer le robot, de remplacer le geste de travail qu'on a copié, hein, pour la taylorisation, on a filmé, c'est les temps modernes de Charlot. Hein. Ouais. C'est donc, mais maintenant, c'est les big data, c'est-à-dire qu'on prend nos gestes de consommation, notre façon de jouir de la marchandise. Et donc, là encore, on va réduire la capacité d'attention. Il y a eu un clip d'un chanteur du Rwanda sur les big data qui est assez parlant sur à quoi ça aboutit. Quoi.
Vous allez nous la chanter?
Comment il s'appelle? Quand il dit Papa Outé, Papa Outé, c'est lui il a fait un super clip. Je ne sais plus le nom du clip, mais on voit la bête qui mange les big data et puis qui rechie après. Donc c'est de la valeur d'inusage qui va être produite. Mais la valeur d'inusage, quand on vous vend une machine à laver avec plein de fonctions que vous n'utiliserez pas, vous payez de la valeur d'inusage, en fait. Vous n'en aurez pas usage. Et donc l'incorporation de l'inusage dans la marchandise, c'est comme la malbouffe, hein, c'est comme les pesticides dans la bouffe. C'est de la valeur de mort, de destruction, de soustraction. C'est de la valeur, j'appelle inusage, valeur d'inusage. Il y a de la valeur d'usage, de la valeur d'échange, mais il y a de la valeur d'inusage. Et la valeur d'inéchange, on l'attend puisque c'est la communion. C'est la communion des religions. C'est une valeur extatique, une valeur qui est au-delà de la communication. C'est le lien communiel à l'autre. Celle-là, elle est inconnue au bataillon. Il y a Jean-Marie Arribé qui écrit sur l'inestimable. L'eau et l'air ne doivent pas être capitalisés. Alors qu'il y a des sociétés qui vont acheter les sources en Grèce. Ou...
Et l'eau, ça va être c'est déjà un sacré problème. Ça me fait penser d'ailleurs à un exemple qui est assez révélateur, je pense à Israël.
Ah oui, qui prive les Palestiniens, qui les condamne à l'eau saumâtre. Hein. C'est dramatique. Hein.
C'est un sujet géopolitique très...
Voilà quoi. Sur lesquels, en plus, on a interdit de parler, puisque aussitôt, on a des organisations voilà. dangereuses. Oui. Mais Pierre Péan en a subi. Quand il a voulu montrer le lien d'Israël avec Paul Kagame, il s'est fait vraiment impliquer en procès. Pour l'instant, on n'a pas de preuve que ce ne soit pas Paul Kagame qui a abattu l'avion des présidents du Rwanda et du Burundi à la fois. Ce qui était malheureusement Hutu. Donc ils n'étaient pas des Nilotes, ils n'étaient pas des descendants de l'Érythrée, des peuplades des aristocratiques et bien nés, sacrés, quoi, préservés. Préservés depuis la Bible. Qui est un texte fossile, comme vous le savez.
Je vous dis merci.
C'est
très intéressant tout ce que vous dites. Où est-ce qu'on peut vous lire? Là, ici?
Non, mais je vais chercher mon catalogue.
Je voudrais savoir pourquoi vous appelez Lionel.
Excusez-moi, monsieur, je reviens. Donc nous sommes sur la bicyclette. Vous vous appelez comment?
Hein?
Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lionel.
Oh, mais je n'ai pas besoin de dire mon nom.
Je m'en doutais. Donc où est-ce qu'on trouve vos publications, je sais pas, enfin vos écrits?
Alors, sur le site democratienouvelle.org, voilà.
Au pluriel?
Oui, ah bien oui. c'est un concept de polyhumanisme, c'est-à-dire la pluralité des humanismes, la complémentarité des civilisations.
Donc là, vous me donnez une petite présentation, c'est ça, sur cette feuille 4?
Voilà, vous avez des animations que l'on fait, les livres que l'on imprime sur papier verger, cahier cousu, couverture à rabat. Donc un travail durable, un vrai artisanat. C'est pas le livre horriblement cher, alors qu'il se dépiote au bout de quelques mois et qui est en fait fini au pilon. Voilà.
Alors on vous trouve, vous avez fait des événements sur des lieux, dans des lieux.
Les événements en librairie des fois.
Librairie olympique par exemple.
Ah ben oui, bien sûr, à la librairie olympique.
Voilà, qui se trouve.
Qui se trouve 23 rue Rode à Bordeaux. Et au printemps des poètes, parfois on a nos étals. Et les troisièmes samedis du mois, on étale nos livres autour du marché des Chartrons. Seulement ce jour-là, hélas, on n'a pas. C'est difficile pour nous d'être à la Victoire. Puis on a un temps de travail d'écriture tel, vu la bibliographie gigantesque qu'il y a maintenant, il y a un savoir démesuré, des clips, la vidéo à voir, etc. Là, pour le Rwanda, là, j'ai travaillé sur beaucoup d'heures. Donc tout ce temps-là nous empêche dans la diffusion, bien sûr. C'est malheureux, mais il n'y a pas de bons diffuseurs de livres pour les maisons qui en valent la peine, comme Le Temps qu'il fait, Plein Champ, Voilà, c'est des gens qui impriment sur un papier qui est durable, avec des encres qui ne sont pas acides, cahiers cousus, c'est des livres qui tiennent le coup. Voilà. Et on est marginalisé en librairie, c'est effrayant, quoi. C'est condamnation à mort même. Hein. Bon, j'espère que ça ne va pas durer, mais pour l'instant, les problèmes de trésorerie des libraires, vu le prix des loyers dans les grandes villes, font qu'ils sont obligés de massacrer nos petites éditions. Est-ce qu'ils sont obligés ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est l'éthique qui manque aussi chez eux.
Merci. Vous avez un petit message de fin, comme ça, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous aimeriez...
Voilà, la langue, ça s'abîme quand on n'a que des mots... quand on restreint le champ lexical, c'est comme quand on met trop de pesticides dans la terre ou qu'on la laisse... Claude et Lydia Bourguignon ont parlé du lessivage des sols. Et c'est très grave parce que lessiver la langue, c'est réduire la capacité d'intellection d'un peuple, la capacité d'attention, la capacité de concentration. Et donc après, ils sont la proie de tous les médias, leur portable, qui leur infestent le cerveau balance ton porc, pour augmenter la guerre civile, il n'y a pas mieux, quoi. Pour essayer de qu'on soit tous des Tutsis, des Hutus, il n'y a pas plus intelligent comme façon de faire. Voilà. Cette façon de médiatique de non approfondie, quoi, qui ne répand la rumeur. Il y a eu un livre de Jean-Noël Capferrère sur la rumeur, mais là on est arrivé au stade industriel de la production des rumeurs et donc de l'intensification des contradictions au sein des peuples. Qui finit des fois par un génocide, un épisode génocidaire comme donc il y en a eu au Burundi en 72 où les Tutsis ont massacré des centaines de milliers de Hutus et donc on a un genre de réplique mystérieuse qui ont à voir avec ce que William Reich appelait la peste émotionnelle et cette façon de propager épidémiquement. Jean Baudrillard a parlé de ça aussi, l'épidémique et le viral dans la communication postmoderne. Cette façon de lancer une rumeur qui finit en délation et en ordre de tuer le voisin, le prochain. Il va falloir arrêter cette spirale infernale parce que on sait pas, elle s'arrête jamais, hein, elle s'arrête quand il y a trop de morts. Mais...
Comment ? Comment organiser, j'allais dire, je sais pas, le contre-pouvoir, quoi, quelque part. Ça se répond à une...
Il se trouve que c'est dangereux parce qu'il y a la concurrence des thérapeutes. On a vu que les lacaniens ont empêché le message de Pierre Bourdieu, qui lui-même était la synthèse de l'école de Palo Alto, Erwin Goffman, la présentation de soi dans la vie quotidienne, le stigmate. Comment les gens communiquent par leurs stigmates, les marginaux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un champ lexical réduit des fois, parce qu'ils communiquent par le handicap qu'ils ont subi d'avoir leurs possibilités psychiques réduites par le consumérisme. Alors, donc, le consumérisme est une addiction légale, mais évidemment, il produit aussi des addictions comme le tabagisme, l'alcoolisme, la drogue, etc., le jeu. Voilà, il y a ces formes d'addiction sont très difficiles après. À vaincre pour chaque personne. Donc, s'il y avait une multiplication de l'effet des découvertes anthropologiques en ethnologie, en sociologie, on a eu quand même Claude Lévi-Strauss, c'était important sur la notion de dépasser la notion d'ethnie, race et histoire, c'est vraiment les préfigurations du tout monde de Édouard Glissant, le penseur de la créolisation. Ça va au-delà du métissage, de la créolisation. C'est encore plus ce que j'appelle le polyhumanisme, c'est-à-dire la complémentarité des civilisations. Donc, le tout monde, cet enseignement de l'ethnologie et de la psychanalyse, il n'est pas du tout encouragé par la librairie française ou la télévision française. Bon, quand Pivot faisait venir Lévi-Strauss, ou s'il l'a fait venir, ou c'était vraiment occasionnel, quoi. Il préférait vendre la dernière connerie à la mode, qui nous enseigne rien du tout, mais qui nous fait croire, parce que c'est l'analyse de quelqu'un de sa famille ou de son quartier, que ça va nous être profitable, qu'on va apprendre quelque chose. Bon, mais non, il faut aussi laisser les personnes qui ont eu du terrain. On revient à ce que j'ai dit sur la pratique théorique et la théorie pratique. Ceux qui ont eu du terrain, ils ont des chances de nous être plus profitables, plus efficaces pour nous soigner des maladies que le capitalisme engendre dans la personnalité, quoi, et dans les groupes. Parce que les groupes communautaristes, ce n'est pas une solution. C'est l'instant où ils ont une espèce de fétichisme des talents ethniques. Ils ont des fétiches, quoi. Ils ont des totems. Mais qui dit totem dit tabou, dirait Freud. Et donc, ils ont le tabou de l'autre clan d'à côté. C'est propagateur de guerre civile, ça aussi. On le voit avec le Bataclan, on le voit avec Nice, voilà. Il y a des gens, c'est la main d'Allah, ils sont devenus la main d'Allah, donc ils ne sont pas responsables, puisque c'est Dieu qui agit par leurs gestes. Mais je ne sais pas si de l'autre côté, ce n'est pas pareil. Le libéralisme tue, mais vous allez dire à Madame de Ligneris ou à M. Mola que c'est des tueurs, ils ne vont pas vous croire. Hein. Mais oui, ils tuent tout ce qui est toute une littérature qui est beaucoup plus thérapeutique. Que le dernier roman, la dernière bagatelle. Bon, peut-être Madame de Ligneris, c'est moins coupable que Monsieur Mola. Faut trouver il y a des proportions. Hein. Mais voilà, c'est. Il y a un moment, ils doivent avoir une déontologie pour éviter que la daube submerge le soin, alors qu'on est vraiment des populations malades. Et donc, il faut, quand c'est malade, il faut soigner. Sinon, c'est l'élevage en batterie. Et l'élevage en batterie, c'est l'épidémie.
Merci beaucoup. Nouvelle démocratie pour...
Démocratie nouvelle, au pluriel. Hein.
Excusez-moi.
Les démocraties nouvelles, c'est-à-dire la complémentarité des civilisations. On a commencé à ce concept, si on veut, à l'époque de la fin des colonels en Grèce. Et Franco commençait à battre de l'aile. Voilà, on a pensé qu'il y avait une régénérescence en Europe, mais il y a des freins sur cette Europe nouvelle.
Alors, on va finir par une petite page de pub. Le prochain événement où on peut vous écouter, vous rencontrer et échanger, ça va être où, à Bordeaux ?
Ben, sur le site, je vais peut-être mettre mon intervention à Espace Marx, là, que je viens de présenter hier, mais ça va demander quelques jours, hein, parce que... Mais sur le site, il y a déjà des choses, hein, sur, mettons, le commerce des prépuces des bébés américains.
Bon, on ira voir ça.
Pour faire des produits de beauté pour les vieilles.
Des produits,
pour maintenir les vieux comme barrage à tout espoir de la jeunesse. Ce qui se fait communément en France, c'est-à-dire que dès l'instant où on calcule les produits dérivés ou financiers sur le travail à venir, alors qu'il n'y en a pas, puisqu'on a robotisé beaucoup de tâches des gens sans qualification, ben, donc ces gens-là sont appelés à devenir addicts à la drogue et à devenir apprentis entrepreneurs en terrorisme de masse, puisqu'ils n'auront que cette offre par les imams salafistes.
On pourrait continuer. Enfin, bon, ben, voilà. Non. Démocratie nouvelle. Merci.
Alors, je sais le combien, là, la radio.
Ça s'appelle Radio, là.
Radio, là, ouais. Mais...
Vous tapez,
la fréquence.
Sur ce qu'on appelle Google.
D'accord. Radio, là, sur Google. Bon, d'accord.
Vous tapez Arte, Radio, là.
Bon.
Comme
et moi, alors, il y a des extraits de films de mon frère qui ont été mis sur, sur YouTube.
Ouais.
Donc, c'est les films de Patrice Hénard.
Hénard, c'est comment ?
E-N-A-R-D. Oui. Okay. Patrice, donc, c'est, pas, c'est un Libanais qui a décidé de... Que, comme il était injustement méconnu, il a mis quelques films de Patrice. Alors ma belle-sœur est folle de rage parce qu'elle a, elle a mis son œuvre en DVD. Et donc, elle, elle veut bien qu'il y ait des teasers, mais pas, des, pas l'œuvre entière. Et il y a trois films entiers. Bon, c'est un peu dur, mais bon. C'est pour la bonne cause, sans doute, que ce Libanais a fait ça. Et on lui pardonne.
Bon, je vous propose qu'on aille retrouver Jean-Hugues. On rend l'antenne ?
Oui, oui, on rend l'antenne.
Allez.
Mais il faut que je lui fasse la bise, il faut que je m'en aille, moi, parce que...
Allez, à bientôt.
Allez, ciao.
Ciao.